Bonsoir frères et sœurs. Quelle grâce que de nous retrouver dans sa présence et de vouloir continuer la course en étant soucieux de persévérer jusqu'au bout. Dans l'évangile de Luc au chapitre 12, le Seigneur Jésus donne des exhortations et entre autres, il dit ceci au verset 35. Nous allons lire jusqu'au verset 40. C'est Jésus qui parle. Tout ce qu'il dit est important. Tout. Chaque mot est inspiré. D'ailleurs, il l'a dit, pas un iota ne doit être ajouté, retranché, pas un iota ne disparaîtra. Même la terre et le ciel disparaîtront, et pourtant sa parole, elle, ne passera pas. Luc chapitre 12, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Retenez bien cette parole du Seigneur Jésus. Que vos lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Regardez bien, le bonheur est lié également à cette attitude. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Ce texte nous enseigne à veiller. Il faut veiller. Les chrétiens doivent aimer veiller. Ils doivent comprendre ce que cela signifie, veiller, car il y a des dangers à ne pas le faire. Au travers de ces textes, Jésus nous avertit. Dans le psaume 50, ne le cherchez pas, Dieu dit « Écoute Israël, et je t'avertirai ». Nous avons besoin d'être avertis. Est-ce que vous aimez les avertissements ? Est-ce que vous les aimez ? Vous avez vu, même les radars, on continue à nous avertir. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Mais vous avez vu, les gens, ils préfèrent être avertis. C'est bien d'être avertis, non ? Et plusieurs fois dans la Bible, on voit que des hommes avertissent. L'apôtre Pierre, on pourrait lire un texte encore. Regardez dans 2 Pierre au chapitre 3, on voit cette volonté de Dieu de continuellement nous avertir. 2 Pierre chapitre 3, verset 1er, tout ce chapitre qui nous parle de, qui résume toute l'épître, à savoir que Jésus va revenir et qu'il nous donne des avertissements. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1er, voyez, il s'adresse, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Il résume le but des deux épîtres. Oui, j'allais dire une épître, mais c'est faux. En vérité, dans ce texte, l'apôtre Pierre résume le but des deux lettres, qu'il soit averti. Averti parce que Jésus va revenir. Averti parce que c'est sérieux. Regardez à la fin, hein, il le dit, de nouveau il en reparle, c'est au verset 17. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté. » Vous savez que lorsque Jésus a été questionné sur les signes de la fin des temps, il a prophétisé quelque chose de terrible. Il a dit qu'à cause de l'iniquité, vous connaissez la suite, à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Et ce n'est pas dans la vie sociale ça, c'est dans l'Église. L'iniquité, l'amour qui se refroidit, ce n'est pas l'amour du monde. Le monde n'a jamais connu l'amour de Dieu. C'est l'iniquité rentrera dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose de prophétisé par le Seigneur Jésus-Christ. On le voit parce qu'il y a tout un tas de choses qui peuvent entraîner les chrétiens, l'amour de l'argent et bien des choses encore. Là, il dit, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies. Vous trouvez qu'il y en a des impies autour de vous ? Eh ouais, il n'y a que ça. Les gens aiment l'impiété, les gens ils aiment le péché. Et le texte nous dit, mais vous êtes avertis. Et faites très attention de ne pas être entraînés par l'égarement des impies. Sans que nous nous en rendions compte, les gens autour de nous essaient de nous détacher de l'œuvre de Dieu. Les choses essaient de nous
de nous entraîner. Peut-être qu'il y a des choses qui essaient de... Un chrétien me disait tout à l'heure, tiens, ma femme, d'image matérielle, a préféré aller se promener qu'aller au culte. Voyez, pourquoi ? Il a dit, mais tu aurais pu aller te promener hier. Oui, mais j'ai envie d'y aller aujourd'hui. Voyez, entraîné par des distractions. Et dans tout un tas de domaines, les chrétiens, s'ils ne veillent pas, seront entraînés à cause de l'impiété. Alors il y a dans la parole de Dieu des hommes qui se sont fait remarquer parce que justement, ils ont été avertis et ils ont tenu compte des avertissements. Je pense à Noé, il a été divinement averti. Est-ce que c'était bien qu'il en tienne compte ? Un peu, hein ? C'était bien qu'il en tienne compte. Siméon, il a été averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Et cet homme est resté fidèle jusqu'à la fin. La Bible nous demande de veiller. Alors, le titre de ma prédication ce soir est très simple. Il y a d'autres textes dans la Bible qui nous parlent de veiller. Je pense à la parabole des 10 vierges. Dans cette parabole, il nous est parlé de vierges folles et de vierges sages, dont la question que je nous pose ce soir est celle-ci. Suis-je sage ou suis-je fou ? Plus que c'est une parabole, pas une parabole, une explication de ce qui se passera lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées. C'est ce qui arrivera à la fin des temps. J'avais l'intention de continuer la prédication de dimanche sur la consolation, sur la bonté de Dieu, parce que je sais pertinemment que pour être de vrais consolateurs, pour apporter la bonté, pour apporter la miséricorde comme le Seigneur nous le demande, d'être bon, d'être miséricordieux, d'être des consolateurs, etc., il faut le connaître à lui. Beaucoup de chrétiens sont dépassés par cette affaire-là, parce qu'ils ne reçoivent pas suffisamment les choses de Dieu. Donc il faut connaître Dieu, il faut connaître le caractère de Dieu pour apprendre à le servir, comme il veut que nous le servions. Mais il n'empêche que quand je priais cet après-midi, je sentais que ce n'était pas le sujet que Dieu voulait que j'aborde, car certainement plusieurs parmi nous ce soir ont besoin d'apprendre ou de réapprendre à veiller. C'est quelque chose de sérieux. Nous allons donc lire cette parabole où le Seigneur Jésus demande ce qui est écrit. On aurait pu lire le chapitre 3 de la deuxième épître de Pierre en entier. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de verbes qui nous demandent d'attendre, d'acter, de faire attention, etc., de s'appliquer. Voilà, c'est certainement pourquoi nous sommes ici ce soir. Donc, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, donne cette parabole. Pour moi, ce n'est pas une parabole. Pour moi, c'est une prophétie. Bien sûr qu'il y a tout un tas d'images qui font que c'est une parabole. Mais en vérité, c'est une prophétie, puisque Jésus commence cette parabole en disant « Le royaume des cieux sera semblable ». Ça se passera comme ça. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y aura des chrétiens qui seront fous. Oui, fous, on va voir ce que c'est la folie. Ce n'est pas des gens qui ont des problèmes psychiques, ce sont des gens qui ne sont pas sérieux spirituellement. La folie, spirituellement, ce n'est pas forcément des problèmes psychiatriques. C'est un manque de sérieux par rapport à ce que Dieu demande. C'est Jésus qui le dit. Hein. Alors lisons cette affaire. Matthieu 25, verset 1er. « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » Tout tient dans ce verset 4. « Les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » Voilà la clé. Comme l'époux tardait, voilà, ça c'est le problème. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça, c'est une des paroles les plus terribles de l'Écriture. La porte fut fermée. On pourrait mettre définitivement. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Donc, la seule alternative consiste à nous appliquer à faire ce que nous venons de partager dans l'introduction. Qu'est-ce que c'est de veiller? Jésus va utiliser quelque chose, une coutume de l'époque, à savoir la façon dont les gens se mariaient. Les amis de la mariée rejoignaient l'époux. Après, ça faisait un cortège, ils allaient chez la mariée, et là, ils partaient faire les noces. Là, il n'est pas question du mariage, il est question des amis de la mariée. Alors, il y avait toute une affaire comme ça. C'est comme s'il y avait un mariage, que le marié est au minime, la mariée, elle est à Saint-Agne, la rencontre se faisait le soir, donc, eh bien, les jeunes filles partent de Saint-Agne, on se donne rendez-vous au Capitole, et on doit rencontrer l'époux au Capitole, et puis après, hop, on part chez la mariée, le père de la mariée remet la mariée au mari, et on fait la fête. Jésus utilise cette coutume de l'époque pour expliquer cette affaire aussi sérieuse que la rencontre de l'épouse avec le maître. S'il fallait partir au Capitole, à la pleine nuit, il faut combien pour aller au Capitole? Je l'ai fait, moi, une fois ou deux, il faut 2 heures à peu près à pied. À peu près. Oh, non, mais pour un homme, je parle, hein. Qui marche, il faut à peu près 35 minutes pour aller au Capitole. D'accord? Donc, des minimes au Capitole, à peu près pareil, je ne sais rien. C'est pour vous donner une idée. Donc, normalement, on prévoit, on sait à peu près, ça se fait le soir. Et donc, je prévois, je prends ma lampe, je sais que dans ma lampe, il y a assez d'huile pour, mettons, 1 heure ou 1 heure. Nous, on calcule. Cette parabole nous enseigne que nous, on calcule. Et on se dit, j'ai assez de force spirituellement pour attendre le retour du Seigneur. Nous, on croit qu'on a assez, que notre piété, celle que l'on a, est suffisante. Il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils vont à l'église, eh bien, ils sont du côté de Dieu. Vous voyez, c'est ça. Ils ont un tout petit peu d'huile. Ils s'imaginent que parce qu'ils ont un tout petit peu de piété, Dieu est content. Il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils croient en Dieu, ils sont prêts à le rencontrer. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils prennent la Sainte Cène le dimanche matin, ils sont en communion avec Dieu. Et ainsi de suite, ils n'ont pas d'huile, ou un tout petit peu. Ils s'imaginent que ça suffit. Pour être prêt à rencontrer Dieu, il ne faut pas de la croyance. Pour être prêt à rencontrer Dieu, il faut une véritable piété. C'est ce qui ressort quand même en profondeur dans cette parabole. Qu'il faut faire attention. On n'est pas prêt à rencontrer le Seigneur parce qu'on l'attend. Les 10 vierges représentent l'Église. Ces vierges représentent quand même des gens sérieux qui se sont gardés purs, mais qui ont mal calculé. Un chrétien, il ne doit pas être sage à ses propres yeux. C'est écrit dans la Bible, ne sois point sage à tes propres yeux. Il y a des gens qui s'imaginent parce que, voilà, un joueur rentre sur le stade et il fait le signe de croix, oh, ça doit être un chrétien. Voyez comment on est. Voyez. Oh, souvent, quand il prie, quand il parle, il dit, oh, mon Dieu, ils utilisent ce nom-là juste pour exprimer leur exclamation. Voyez, c'est bon. Je ne pense pas que c'est ça la piété. Le Seigneur Jésus est en train d'expliquer qu'il y a des choses que l'on risque de faire trop tard. C'est écrit dans la parabole du mauvais riche et de Lazare. Le gars, une fois qu'il est mort, il fait tout un tas de choses, mais c'est trop tard. Ça ne sert à rien. Là, dans cette parabole, il y a ces folles qui font faire certaines choses. Après, elles arrivent au Capitole et l'époux n'est pas là. Vous avez vu ce qui est écrit? Comme l'époux tardait. Il devait arriver à 9h du soir, il n'est pas arrivé. Comme l'époux tardait. C'est ce que Pierre dit dans le troisième chapitre, que beaucoup de gens, de chrétiens, vont se moquer parce que Jésus tarde. Et il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais ça fait longtemps qu'on attend le Seigneur, et on nous avait dit qu'il reviendrait, et voilà. Et bénissez Dieu qu'il tarde. Bénissez Dieu. Bien sûr que nous, on préférerait qu'ils reviennent, c'est clair, les grandes vacances, ça intéresse tout le monde. Mais mes frères et sœurs,
C'est ça le problème. Il est là le problème. C'est que Jésus tarde. Moi, j'ai entendu même un serviteur de Dieu qui a dit, oh, mais Jésus, il peut revenir dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans. On ne sait pas s'il va revenir. Mais ça, c'est pas bien, ça. Et même s'il tarde très, très, très longtemps, il peut nous reprendre très vite à nous, individuellement. Et c'est un drôle de calcul que de se mettre à calculer comme ça. Ces vierges sont folles parce qu'elles sont négligentes. Nous, la négligence, on dit, c'est pas grave, le gars, il arrive 5 minutes en retard au travail, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est grave d'être négligent. C'est écrit, cessez d'être négligent. Cette affaire, elle est sérieuse parce que, voilà, elles arrivent, on est au Capitole, il n'y a pas d'huile, il arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Nos lampes ne sont pas d'huile, mais je sais qu'il y a un endroit à Balma, il faut aller à Balma acheter de l'huile. Il y a une petite épicerie à Balma où ils vendent de l'huile. Je vous mets dans la périphérie de Toulouse pour que vous compreniez un petit peu ce qui est enseigné dans la parabole. Mais voyez, il y a des efforts qui ne serviront à rien. Après l'enlèvement de l'Église, ça ne servira à rien de faire des efforts. Les efforts, il faut les faire maintenant. Les efforts, il faut les faire avant. Il faut s'y préparer maintenant. Ce soir, vous avez fait l'effort de venir dans la maison du Seigneur. C'est la preuve que vous vous appliquez, que vous commencez à veiller, que vous prenez les choses de Dieu au sérieux. Vous êtes venu avoir, vous vouliez un moment de prière, vous vouliez un moment où vous élevez la voix vers Dieu, vous vouliez un moment où vous partagez la parole de Dieu, comme on l'a chanté, on écoute la trompette d'argent. C'est révélateur d'une vraie piété. J'ai dit tout à l'heure, ça peut être l'apparence de la piété. Mais il est certain que pour beaucoup, c'est sérieux, c'est ça veiller. Et quand même, le Seigneur Jésus, sachant ce qui allait arriver, sachant comment l'apostasie s'installerait de plus en plus dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'abandon de la foi, on n'abandonne pas Dieu, on abandonne la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils n'ont jamais abandonné le culte, jamais, mais ils ont abandonné Dieu. Vous le remarquerez, jamais ils n'ont abandonné le culte. Alors ça, pas question. Nous, on aime trop Dieu. Mais en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut rester religieux en étant très loin de Dieu. Et Jésus explique ce que moi, je n'aurais pas osé le faire. Au cataloguer, quelqu'un qui oublie de l'huile de fou, c'est quand même sévère. Mais justement, la Bible nous demande de considérer la bonté de Dieu. J'ai failli prêcher que sur la bonté de Dieu ce soir, car je crois qu'il faut goûter à la bonté du Seigneur. Il y a ce psaume 34, il dit, mais sentez et goûtez combien Dieu est bon. Moi, je crois que Dieu est bon, mais qu'il nous parle ce soir. Est-ce que ce n'est pas un signe de sa bonté également? Mais sa bonté consiste aussi à comprendre sa sévérité. On l'a chanté dans le premier cantique, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Le Dieu que nous connaissons de la parole de Dieu est un Dieu plein de bonté et un Dieu sévère en exigence. On ne peut pas avoir un Dieu grand qui ne soit pas sévère en exigence. Ça ne serait pas un vrai Dieu. Et donc il explique que la négligence, la paresse, l'oubli, spirituellement, c'est de la folie. Pourquoi ? Parce que les conséquences sont terribles. Ce qui différencie les sages des folles, ce n'est pas grand-chose. C'est que les folles se contentaient d'un peu de piété, disant « mais moi ça me suffit, ce que je vis, ça va, j'ai assez d'huile pour avancer ». Mais nous ne savons pas comment les choses peuvent avancer. Nous ne savons pas comment les épreuves peuvent se présenter. C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne sait pas ce que l'on peut traverser. Et vous le savez, que des fois, en quelques heures, on peut traverser une épreuve difficile et n'a pas avoir suffisamment de réserve. Et le Seigneur nous demande d'être intelligent. C'est ça l'intelligent, de dire, quand même, on le fait financièrement. On n'est pas capable d'avoir des petites réserves financières. Est-ce que c'est sage d'avoir un peu d'argent de côté? Je ne parle pas d'être avare. Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est biblique, la loi des réserves? Oui, c'est biblique. On le fait. Il y en a qui ont leurs réserves de riz, de pâtes, de sucre, de confiture, etc. Est-ce que c'est bien? De Nutella, est-ce que c'est bien? Mais bien sûr que c'est bien. On ne le fait pas. Est-ce que ce n'est pas intelligent d'avoir quelques réserves de nourriture? Mais bien sûr, la loi des réserves, elle est biblique en plus. Alors on est capable pour son corps de faire quelques réserves, On est capable, par rapport à certaines situations, de tiens, je tiens à avoir un peu d'argent de côté. On ne sait pas ce qui peut arriver. C'est de l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'avarice. L'avarice, c'est autre chose. L'amour de l'argent, c'est autre chose. Et spirituellement, on ne serait pas capable, par amour pour Dieu, par rapport à cette échéance qui arrive, de se dire que si l'époux tarde, après tout, si Dieu tarde, est-ce qu'il a raison de tarder? Eh bien oui. Quand même, si Jésus tarde, c'est parce qu'on prie pour nos familles, on prie pour nos enfants qui ne sont pas encore convertis. Vous n'aimeriez pas qu'il fasse partie du voyage? Est-ce que ça vaut la peine qu'il tarde, le Seigneur? Mais bien sûr, ça vaut la peine. Bien sûr, non pas ma volonté, mais Seigneur, la tienne. Bien sûr que si je vous disais, le Seigneur Jésus revient à 9h30, qu'est-ce que ça vous ferait? À 9h31, on est au ciel, aux noces de l'agneau. Qu'est-ce que ça vous fait? Dites-moi. Est-ce que ça vous intéresse? Ben oui, c'est bien. Les très grandes vacances. Ben bien sûr. Mais si je vous dis, le Seigneur, il tarde. Bon, pour l'heure, c'est pas sûr. Hein? Mais si je vous dis, le Seigneur, il tarde parce qu'il use de patience afin que ceux pour qui vous priez soient sauvés. Est-ce que c'est pas mieux encore? Ben oui. Seigneur, il le sait, il est tout puissant, il est omniscient. C'est pour ça que quand je parle de la bonté de Dieu, Dieu ne peut pas se tromper. Il sait exactement quand est-ce qu'il doit revenir. Et cette affaire de que l'époux tarde, ça doit nous encourager à dire, c'est vrai, moi j'aurais aimé que Jésus revienne, j'aurais aimé que mes enfants soient épargnés de certaines choses, j'aurais aimé que, Seigneur, si tu tardes, tu as des raisons de tarder. Tu as des raisons. La sagesse de Dieu, nous ne pouvons pas le concevoir. Le plan de Dieu, je vais parler dimanche, je suis en train de réfléchir par rapport à la façon dont Dieu a utilisé Pharaon. Quand Dieu dit « je t'ai suscité à dessein », Dieu a mis le peuple de Dieu 400 ans sous l'emprise de Pharaon en Égypte. On pourrait dire « mais c'est ça la délivrance ?» Parce que Dieu parle d'une grande délivrance. Non, mais quelqu'un qui est un petit peu épineux, là, il pourrait dire, mais c'est ça la délivrance? Que Dieu parle à Abraham. Et pourtant, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez, je t'ai suscité à dessein afin de publier ma gloire sur toute la terre. Parce que le but de Dieu, c'était pas le confort des Hébreux. Le but de Dieu, c'était la rédemption du monde entier. Vous comprenez? Et on verra ces choses pour comprendre combien il faut se soumettre aux autorités. Ça, c'est la prédication de dimanche. Et d'ailleurs, je vous demande de prier parce que c'est extrêmement sérieux, en tous les cas pour moi, quand je vois comment certains chrétiens sont insoumis aux autorités. Si vous êtes dans ce cas, repentez-vous ou arrêtez de prier. Ça ne servira à rien. Tout ça pour vous expliquer que Dieu est sage, et il sait ce qu'il fait et il sait quand est-ce qu'il doit faire certaines choses, surtout quand même quelque chose aussi important que l'enlèvement de l'Église. Oui, elles ont été cataloguées de folles par le Seigneur Jésus lui-même. Car c'est de la folie que de ne pas prendre au sérieux une parole du Seigneur qui dit « veillez donc ». Comment veiller? Parce qu'on pourrait expliquer beaucoup de choses sur ce qui ne va pas, sur la façon dont les chrétiens sont négligents. Bon, mais ça, je ne sais pas si c'est le plus important. Ce que je voudrais ce soir vous dire, c'est vous encourager afin que vos lampes soient allumées. Et quand je priais cet après-midi, il y a un texte qui s'est imposé à mon cœur. Et j'aimerais qu'on prenne ce texte, presque pour terminer cette prédication, c'est dans le prophète Zacharie. Vous savez que dans le prophète Zacharie, il y a une image extraordinaire de la façon dont le Seigneur va montrer comment avoir de l'huile. Zacharie va avoir une vision. C'est magnifique ce qui va se passer. Zacharie, oui Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 4, verset 1er. L'ange qui me parlait revint, c'est presque avant l'évangile de Matthieu, c'est l'avant-dernier livre. L'ange qui me parlait revint, il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. C'est une expérience ça, être réveillé par un ange. Vous aimeriez faire cette expérience? Vous n'auriez pas peur? Non? Il me dit, que vois-tu? Je répondis, Je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et oui, il était bien réveillé. Hein. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. C'était magnifique, hein, non ? Est-ce que vous arrivez à vous imaginer la scène ? Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. » Dieu voulait encourager le roi, Dieu voulait encourager le serviteur de Dieu dans une affaire qui était quand même assez difficile pour montrer que s'il faisait attention, Dieu les soutiendrait et les aiderait à terminer le travail. C'est exactement pareil pour nous. Si nous sommes sérieux, Dieu nous soutiendra et nous pourrons terminer l'œuvre de Dieu à laquelle nous sommes appelés. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de lui montrer ? Un chandelier avec sept lampes, avec un vase au-dessus, et au-dessus du vase, il y a deux oliviers. Donc, les oliviers alimentent le vase, et le vase alimente le chandelier. Donc, pas de problème d'huile. Et il y a là-dedans une image extraordinaire. Notre vie, rappelez-vous, que vos lampes soient allumées. Le verset d'introduction, que vos lampes soient allumées, dans un contexte justement du retour du Seigneur, où beaucoup ne seront pas prêts parce qu'ils ne veillent pas. Parce que les poutardes, parce que ça traîne. Nous, on avait pensé que Jésus reviendrait en 2000. Non, mais il y en a qui l'ont pensé, ça. Et il y en a qui se sont découragés. C'est stupide. Vous voyez, mais comment les gens sont capables, eux, de faire leurs calculs à eux. Et là, il y a cette vision que Dieu donne à Zacharie pour nous montrer qu'il y a un secret. C'est que nous devons être, nous, la lumière du monde, mais qu'il y a vraiment un seul moyen. C'est que le vase doit être continuellement rempli par ces deux oliviers. Alors, que sont-ils ces deux oliviers ? Moi, je crois que c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. J'ai vu plusieurs commentaires là-dessus, mais moi, je crois que notre vie est remplie d'huile par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, par la prière. Est-ce que vous le croyez ? Moi, je le crois vraiment que lorsque, sans nous en rendre compte peut-être, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous sommes seuls dans le lieu secret, comme Jésus l'a dit, le Saint-Esprit, peut-être même à notre insu, remplit notre vase. Vous ne le croyez pas ? Nous ne nous en rendons peut-être pas bien compte, mais je crois que même dans un moment comme celui-ci, où nous écoutons la parole de Dieu, où nous prions, où notre cœur est ouvert, où les conduits, bien sûr, sont nettoyés, car il faut que l'huile puisse se déverser dans notre vie, je suis convaincu que lorsqu'un homme lit la parole avec le cœur ouvert, l'huile remplit son âme. Et que quand une situation se présente, eh bien, le Saint-Esprit nous rappelle les choses. Est-ce que le Saint-Esprit ne vous rappelle pas des fois des versets bibliques ? Hein ? Vous êtes là dans la journée, une situation... Ah non, ne t'inquiète de rien. Ne combats pas par tes propres forces. Ne t'irrite pas. Reste dans le calme et la confiance. Et quand tout le long de la journée, dans les affaires, dans les situations, dans les préoccupations, dans les épreuves, etc., ou même dans les moments de grâce et de bénédiction, il est fort probable que quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui qui déborde, eh bien les versets de la parole de Dieu lui sont rappelés. Il vous enseignera et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. À quoi on reconnaît un chrétien qui est prêt ? À quoi reconnaît-on un chrétien qui veille ? C'est un chrétien
qui, eh bien, se remémore les textes de la parole de Dieu. Est-ce que c'est écrit dans la Bible de méditer la parole de Dieu? De rendre nos pensées captives à l'obéissance, est-ce que c'est écrit? Oui, bien sûr, ce n'est pas toujours facile, on a toujours des pensées bêtes qui nous traversent l'esprit, mais ça ne doit pas être une grosse affaire, ça. Ce qui est important, c'est de surmonter ces pensées mauvaises par la parole de Dieu. Non, que c'est bête, ça, non, Seigneur, je préfère m'entretenir de telles pensées. Parce que les temps sont difficiles, il nous est dit que toutes vont s'assoupir, toutes vont s'endormir. C'est vrai que quand on lit le Nouveau Testament, on ne voit pas un réveil à la fin des temps. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'entends souvent parler de réveil mondiaux. Écoutez, moi, quand je vois et quand je lis et que je relis les prophéties de Jésus et de l'apôtre Paul, bien sûr, moi, je vois qu'il en sera de même comme du temps de Noé, où la violence sera grande sur la terre. Il en sera de même, a dit Jésus. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même manière. C'est écrit comme ça. Et je crois qu'on peut espérer dans un réveil. Est-ce qu'après tout, même avant un jugement, il peut se passer ce qui s'est passé à Ninive? Oui. Ben, si les hommes crient à Dieu, est-ce que Dieu se réjouirait de ce qu'ils se convertissent? Oui. Mais quand même, quand on lit les prophéties, on peut s'attendre à ce que les choses s'aggravent. Est-ce que je suis défaitiste ou est-ce que je suis réaliste? Moi, je crois que c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Les choses ne vont pas faire en s'arrangeant. L'apostasie s'installera de plus en plus. Si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, nous serons entraînés, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Si dans une église, on ne veille pas sur la saine doctrine, si dans une église, on ne veille pas ce qui est la vie de prière, les chrétiens seront entraînés, qui qu'ils soient. Toutes ces vierges, même les sages, se sont assoupies. Alors veillons déjà à ne pas trop nous assoupir et veillons surtout à faire ce qu'elles ont fait, à avoir des réserves. Et je répète pour terminer, car c'est quand même une grande source de bénédiction, il y a la possibilité, Dieu a voulu le montrer à Zacharie, que nos lampes qui doivent être allumées, parce que quand Jésus dit que vos lampes soient allumées, comment? C'est bien joli de dire à quelqu'un que vos lampes soient allumées. Mais vous l'avez la réponse là, dans le secret, et je le crois, à la bénédiction du culte personnel. Je crois dans la bénédiction de l'Église. On est bien quand on se retrouve. Mais je ne crois pas que ça suffise à avoir nos lampes pleines. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi Jésus dit-il, quand vous priez, dites chaque jour, donne-nous chaque jour. On pourrait réduire notre ration d'huile. Non, c'est pas vrai? Donne-nous chaque jour. Que ma vie soit baignée de cette huile. La Bible demande, veillez, si tu ne veilles pas, tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te reprendre. Si vous avez une concordance, prenez le mot veiller et prenez tous les textes et vous verrez combien c'est important, c'est tout le foie, bien sûr, c'est logique, lié à l'enlèvement de l'Église, au moment où Jésus va revenir chercher ses enfants. Et ne dites pas, à la fin, on verra, je ferai des efforts. Les efforts à la fin ne serviront de rien. Les efforts, il faut les faire maintenant. Oui, il y a deux oliviers qui sont inépuisables. Vous croyez que les ruisseaux de Dieu sont pleins? Vous croyez que le Seigneur peut donner la vie en abondance? Je le crois. Dieu peut donner cette huile en abondance par sa parole, par son esprit, que notre vase soit alimenté. Et je vous le répète pour vous encourager, chaque fois que vous lisez, chaque fois que vous priez, chaque fois que vous vous retrouvez seul le matin avant d'aller au travail et que vous lisez quelques psaumes, écoute Seigneur, garde-moi, délivre-moi du malin. Seigneur, libère-moi, conduis-moi, protège-moi, que mes pensées soient captives. L'huile vient. Et quand Jésus reviendra, vous serez prêts. Vous aurez été sages. Vous aurez dit non, moi, hors de question de devenir fou. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous êtes là pourquoi ce soir? Pour apprendre de Dieu. Écoutez la trompette d'argent. Écoutez, oui, je vous avertis. Je répète, dit le Seigneur. Avertis votre saine intelligence. Siméon, il avait été averti. Et il a eu la joie de porter le Seigneur Jésus dans ses bras. Et quand, il n'avait que 8 jours. Hein. Il n'était pas vieux, notre Seigneur. Hein. 8 jours. Et pourtant, quand il l'a vu, il a reconnu que c'était le Christ, que c'était le roi. Et les pharisiens, les religieux, quand ils ont vu Jésus à 30 ans exercer le ministère de puissance,
ils ne l'ont même pas reconnu. Siméon avait été averti. Béni soit le Seigneur, nous sommes avertis. C'est une grâce d'avoir été averti. C'est une grâce d'être averti par le Seigneur. Oui ou non? C'est une bénédiction de se retrouver dans un lieu où on partage la parole. Ça permet de nettoyer les conduits qui peuvent faire que l'huile va revenir. C'est pour ça que le Seigneur, oh, s'il y a un conduit qui est pollué, qui est bouché, Seigneur, que rien n'empêche cette huile, cette onction d'alimenter ma vie. Car je crois que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand même ça se voit. C'est pas vrai? Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, je pense que ça se voit. Il y a cette grâce, cette espérance, dans l'épreuve, cette faveur qui coule. Oui, je ne craindrai rien. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole. Tu nous l'as laissée pour nous bénir. Tu nous l'as laissé pour nous aider. Oui, comme l'a dit David, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu nous rassures. Nous croyons, oui, que les oliviers sont chargés d'olives, que l'huile abonde dans le trône de Dieu. Tu nous nourriras de cette huile. Nous ne savons pas quand est-ce que tu viendras, Seigneur. Ce que nous savons, c'est que tu sais ce que tu dois faire. Nous te faisons confiance. Nous ne voulons pas faire partie du nombre des moqueurs. Nous ne voulons pas grossir ce groupe. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est te rester fidèle et croire que notre vase peut recevoir par ta parole et par ton esprit cette huile qui nous sera tellement utile pour ton retour. Nous te prions, Seigneur, pour que tous ceux qui sont là ce soir aient leur vie rafraîchie. Tu as même dit dans ta parole que la graisse fera éclater le joug. Nous le croyons, Seigneur, que ton huile nous délivre, nous libère et que tout joug peut être éclaté ce soir. Oui, ton huile, c'est un rafraîchissement. C'est un baume. Tu l'as dit qu'il y avait un baume pour ton peuple. Oui, Jésus, nous voulons ce soir acheter cette huile. Et même si tout est gratuit, nous comprenons qu'il y a des efforts pour écouter ta parole, pour prier, pour méditer. Cette huile bénie, nous la voulons et nous la prenons. Merci Jésus. Nous restons recueillis. Il est certain que la porte est ouverte. Il est certain que Jésus n'est pas revenu. Et que ce soir, il invite, venez, venez aux noces. Venez et prenez, tout est prêt. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui dit, oh mes conduits sont bouchés. Mon cœur est fermé. Seigneur, rafraîchis-moi. Dieu va-t-il le faire? Dieu peut-il le faire? Dieu désire-t-il le faire? Nous parlerait-il de l'huile pour ne pas nous en donner? Nous parlerait-il d'onction pour nous en priver? Moi, je crois que quand Dieu nous parle de quelque chose, c'est pour nous le donner. Et ce soir, Dieu veut vous donner, prenez. Par la foi, peut-être c'est le salut de votre âme que vous saisissez. Peut-être que vous dites, oui, j'étais assez folle jusqu'à aujourd'hui, assez fou. Je choisis la sagesse. C'est pas compliqué. Je me tiens devant toi et j'obtiens des réserves. Il faut pas grand-chose. C'est comme pour le pardon. Il faut lui demander. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui dit, moi, je veux faire partie du groupe des sages. Je néglige mon culte personnel. Stop, c'est fini. Je ne veux pas penser que les efforts après l'enlèvement serviront à quelque chose, ça servira à rien. La seule chose qu'il y aura après l'enlèvement pour les chrétiens, c'est les pleurs et les grincements de dents. Voilà, c'est la seule chose qui arrivera. Pour les chrétiens, ça sera l'honneur, la gloire, les noces de l'agneau, ça sera la fête. la grande fête à laquelle Dieu nous convie. Quelle fête! Et ça tient qu'à une chose, avoir des réserves. Nous sommes recueillis, peut-être quelqu'un dit, Seigneur, moi il faut que je te demande pardon, peut-être que vous le faites déjà, peut-être que vous l'avez fait, que c'est suffisant. Peut-être que vous avez déjà pris la décision de dire, il faut que je me tienne au bénéfice de ces deux oliviers. Il faut que je me corrige. La Bible dit, appliquez-vous. Travaillez à votre salut. Veillez attentivement sur votre âme. Et ça, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dès le début. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, afin que ces choses ne sortent de ton cœur. Peut-être que vous éprouvez le besoin qu'on prie pour vous. Peut-être qu'on pourrait rechanter ce cœur, écouter la trompette d'argent. Dieu compare sa parole à une trompette. Et Paul dit dans l'épître, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Oh, je voudrais que ce soir, la trompette était claire. Que le son ne soit pas confus. Veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui surviendront sur la terre, et que vous soyez debout, trouvés debout devant le Fils de l'homme. C'est bien d'avoir un moment de prière. Pendant quelques minutes, peut-être quelqu'un dit, moi j'ai besoin qu'on prie pour moi. C'est ma façon de manifester ma confiance en Dieu, ma foi en Dieu. J'ai besoin qu'on prie avec moi. Eh bien, venez, notre frère M. Sinarinzi va reprendre ce cœur. Écoutez la trompette d'argent. La trompette, c'était pour avertir le peuple qu'il fallait se lever, qu'il fallait partir, qu'il fallait combattre. C'était la voix de Dieu dans le camp. Ce soir, la parole de Dieu a été prêchée pour que nous devenions sages. Ça tient à rien. Me tenir dans le lieu secret et les oliviers feront couler l'huile dans mon vase sans que je ne m'en rende compte. Que le nom de Jésus soit béni. N'hésitez pas à vous avancer si vous éprouvez le besoin.